Radio Kapi. Oh, Kapi.
Ils sont appelés à libérer leurs parcelles pour permettre la modernisation de l'aéroport de Bipemba Mbujima. Ils sont d'accord, mais ils ne s'accordent pas sur leur montant proposé pour le désintéressement de leur propriété. Pour ce faire, ils ont choisi la rue pour manifester pour leur désapprobation. Un reportage en ouverture de ce journal. Nous retournons ce week-end une fois de plus sur cette assurance du gouvernement congolais quant à l'approvisionnement en carburant. Lors de la 116e réunion du Conseil des ministres tenue à Kinshasa, le gouvernement confirme que des dispositions pertinentes sont déjà prises pour ne pas connaître une carence des produits pétroliers. Le chef des missions et conseiller juridique principal du commissaire général de la PNC est notre invité. Le commissaire supérieur Johnny Siaidi parle de la sécurisation des élections dans le Sud Kivu. C'est après une formation de 4 jours au profit des officiers de la police. Nous parlons tout de suite de ces titres ainsi que bien d'autres nouvelles qui défraient l'actualité congolaise ce jour. Fidèles auditeurs, bienvenue et excellente condition d'écoute à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Kasaï Oriental, trouble ce samedi à Mbujimayi. Plus de 100 personnes, propriétaires des parcelles concernées par le désintéressement, étaient ce samedi dans la rue pour protester contre l'enveloppe des fonds destinés à leur délocalisation afin de permettre la modernisation de l'aéroport de Bipemba. Ces personnes sont celles qui habitent l'espace qui part de la nationale numéro 1, donc sur l'avenue Inga, dans sa partie comprise entre l'avenue Zaïre, retenue comme entrée de la nouvelle aérogare, et l'avenue Dodoma pour déboucher sur l'avenue Fatih ex-Lusambo, qui est retenue comme la sortie de l'aéroport. Arrivé sur place, le ministre provincial de l'Intérieur faisant intérim du gouverneur de province intérimaire promet de faire rapport à sa hiérarchie. Des explications avec Esther Dalafina.
Tôt le matin, ils ont brûlé des pneus à l'entrée de l'avenue Zaïre et au croisement des avenues Salongo et Fatih avant d'être dispersés sans succès par les éléments de la police. Un d'eux s'exprime.
Il y a quelqu'un qui a une parcelle bien construite avec clôture. On lui donne 4 000 $. Maison, bloc de ciment, 4, 3 chambres. On donne 2 000 $, 6 chambres. Est-ce que ça se fait où? Il y a des vieilles mamans qui pleurent ici, des troisième âge. Est-ce vont aller où? Et puis on nous donne 2 semaines. On va aller où? Nous, on n'a pas refusé de laisser place à l'État. Nous voulons que l'État vienne. Chacun vient comme ça. Votre c'est combien? Autant d'argent. Autant on va aller valeur des choses qui sont dans la parcelle. Parcelle vide dans notre HSI. Dernier prix, c'est 10 000 $. Et puis nous avons tous les documents qu'on complète.
Le ministre provincial de l'Intérieur est arrivé sur place pour calmer les manifestants. Ananias Mouzadi Kankonde leur a convié à une réunion d'urgence au gouvernorat des provinces. Cette réunion s'est terminée sans issue heureuse. Signalons qu'un ultimatum de 15 jours a été accordé aux propriétaires des parcelles concernées par le désintéressement afin de se délocaliser dès la réception du message de transfert des fonds. Esther Dalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
La milice Mobondo continue à gagner du terrain dans le territoire de Kwamout, sèmant panique et désolation. C'est le conseil provincial de la jeunesse du Congo, hélas belle jeune visionnaire et authentique du Grand Bandundu, Javiba, qui tire la sonnette d'alarme. Cette structure l'a fait savoir dans une déclaration ce samedi à Radio Okapi. Elle appelle le président de la République à organiser urgentement une table ronde pour mettre fin à cette situation. On écoute Faustin King Kofi, président de Javiba, au micro de Alain Hirung.
Mobondo continue à gagner des terrains dans les territoires de Kwamout, où ils opèrent depuis plus d'une année. Le mercredi dernier, ils ont pris le contrôle du village Chemanfoum, à 25 km de la cité de Kwamout. Chemanfoum est l'un des plus grands greniers agricoles qui ravitaille la cité de Kwamout, le village Machambio et plusieurs centres de cette agglomération. Les miliciens y ont chassé toute la population et ont placé des barrières sur les axes routiers sous leur contrôle. Actuellement, il n'y a pas d'entrée ni de sortie sur l'axe routier Kwamout-Machambio dans la province du Kwango et Demenkao, Impini et leurs environs jusqu'à la rivière, le long de la rivière Maïndombe dans la commune de Kwamout. Le jeune authentique et visionnaire du Grand Bandundu et ses environs, Javiba, demande à son Excellence Monsieur le Président de la République d'activer la tenue de la table ronde pour réfléchir sur la solution à donner à ces problèmes.
Nous allons continuer avec ce journal dans le Congo. Près de 6 blessés ont été enregistrés jeudi dernier dans les lieux du territoire, dans le chef-lieu du territoire portant le même nom. C'était lors de l'inhumation d'une élève du lycée Kasanga mort sur place. Les jeunes de cette entité accusent la police d'avoir ouvert le feu sur les personnes blessées, en majorité les élèves. Ils demandent aux autorités tant territoriales que provinciales de s'impliquer dans cette affaire afin que justice soit faite. De son côté, la police dit n'avoir tiré sur aucune personne, mais tenter de dissuader les jeunes qui voulaient inhumer leurs camarades dans la parcelle familiale. Irène Boma.
Cette vive tension est née jeudi à Kasongolunda au Kwango, à l'occasion de l'enterrement d'une élève décédée par éboulement de terre sur place. Après l'altercation entre la police et les jeunes de cette cité, ces derniers reprochent à la police d'avoir tiré à bout portant sur des élèves et d'avoir blessé au moins 6 personnes par balle. Prince Kidzi, porte-parole de l'organisation des jeunes de Kasongolunda, explique.
Sous une forte tension, la population a incendié 4 maisons. Les élèves partis chercher les corps de leurs camarades décédés se sont vus attaqués par les éléments de la police qui ont tiré à balles réelles contre ces élèves. 6 personnes grièvement blessées, en majorité élèves, dont une fille.
Allégation rejetée en bloc par la police qui parle plutôt de 10 blessés dont 5 civils cognés contre les treillis lors de la fuite et de 5 policiers blessés par des projectiles enregistrés lors de cette altercation. Le commandant de la police de Kasongolunda, le major André Kaouma.
On a tiré des balles en l'air. Il n'y a pas de balles à bout portant. Non, on dissuadait les gens.
Pour sa part, le médecin directeur de l'hôpital général de Kasongolunda affirme avoir reçu 6 personnes blessées par balle, dont 3 nécessitent un transfert à Kinshasa pour une meilleure prise en charge. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Le gouvernement rassure l'opinion nationale, notamment que toutes les dispositions sont prises pour assurer un approvisionnement régulier des produits pétroliers. Cette annonce a été faite hier vendredi au cours de la 116e réunion du Conseil des ministres tenue à Kinshasa. On écoute à cet effet un extrait du compte-rendu lu par le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, extrait proposé par Alain Hirung.
Dans la suite de la communication du président de la République, le Premier ministre chef du gouvernement a axé sa communication principalement sur la discussion en cours avec les producteurs pétroliers. Il a ainsi informé le Conseil qu'il a présidé en date du 17 octobre 2023 une séance de travail avec le ministre des Finances, celui des hydrocarbures, les représentants du secteur bancaire ainsi que ceux des entreprises pétrolières au sujet de l'approvisionnement et de la distribution de produits pétroliers. Cette réunion a également permis d'examiner la question du financement de manque à gagner prévu par le gouvernement en faveur de pétroliers. Le gouvernement de la République rassure toutes les parties prenantes et plus largement l'opinion publique nationale que toutes les dispositions sont prises pour assurer un approvisionnement régulier des produits pétroliers. Dans la même perspective, cette démarche a été confortée par le président de la République, chef de l'État, qui a réuni les parties prenantes à cet effet le jeudi 19 octobre 2023. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie, se charge donc de la finalisation des discussions en cours avec ses partenaires de l'État.
Nous parlons encore produits pétroliers à Lubumbashi. Les acteurs de ce secteur ont mis les clés sous le paillasson. Depuis 2 jours, ils observent un mouvement de grève et déplorent le non-respect des engagements pris par le gouvernement le 30 septembre dernier à Lubumbashi. Cette situation crée la spéculation des prix chez les revendeurs et les prix de la course sont passés du simple au double. D'autres précisions avec Jean-Andre.
Le calvaire des automobilistes de Lubumbashi continue. Ils passent des stations-service en station-service, espérant trouver le carburant, mais en vain. La plupart sont fermés, et les revendeurs, communément appelés Kadhafi, s'adonnent à de la pure spéculation. À certains endroits, le litre d'essence se vend jusqu'à 5 000 voire 6 000 francs congolais, au lieu de 3 490 francs congolais. Cette situation intervient après un préavis de grève de 48 heures adressé au ministre de l'économie par les pétroliers. Ce dernier indique qu'il croupit sous les poids énormes des pertes et manques à gagner, non remboursés depuis plus d'une année par le gouvernement et de la non-publication de la nouvelle structure des prix. Ils soulignent qu'ils ne savent plus faire autrement en raison de la montée de prix des produits pétroliers sur le marché international. Ils déplorent aussi la non-tenue des engagements pris par le gouvernement lors de la réunion du 30 septembre dernier au gouvernorat des provinces à Lubumbashi, à savoir le paiement partiel le mercredi 4 octobre et le dimanche 15 octobre au plus tard de ce manque à gagner, une situation qui ne fait qu'exacerber l'asphyxie financière qu'ils connaissent. Ils ne savent pas non plus renouveler leur stock car ils ont perdu la confiance de leurs fournisseurs à cause du non-respect des engagements pris avec eux. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Même secteur, la plupart des stations-service de la ville de Bukavu sont en rupture de stock depuis quelques jours. C'est ce qui justifie la rareté du carburant à la pompe constatée depuis le matin du vendredi 20 octobre 2023. Certaines stations-service restent fermées faute des produits pétroliers, d'autres auraient même doublé le prix du litre à la pompe. Explication avec le rapporteur du Club des pétroliers du Sud Kivu, Urbain Kangé, joint par Emmanuel Elami.
Le prix du carburant est monté de 800, 950 jusqu'à 1000 sur le marché international. Et c'est ce qui implique qu'aujourd'hui nous sommes à rupture de stock. Et d'où vous avez constaté ce matin la non-activité ou soit la fermeture de certaines stations qui ont fermé leurs portes par contrainte, en fait. Nous avions adressé la lettre récemment. La lettre est arrivée au VPM, ministre de l'économie, pour que le ministre puisse introduire au regard, n'est-ce pas, de sa compétence, puisse demander à ce service de pouvoir publier une nouvelle structure qui va nous aider à rencontrer la réalité actuelle pour que nous puissions bien nous adapter sur le marché et également aussi envisager comment renouveler nos stocks. Voilà un peu les difficultés que nous rencontrons dans le secteur.
Ah, donc le problème, c'est rupture de stock, hein?
Rupture de stock, qui implique désormais la fermeture parce qu'on n'a rien à vendre, en fait.
Changement à la tête de la coordination nationale du PDDRCS, programme pour la démobilisation, désarmement, relèvement communautaire et stabilisation. La société civile du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Maniema accueille avec totale satisfaction le remplacement du coordonnateur national du PDDRCS, Tony Mwamba Ushindi, par M. l'abbé Jean Bosco Bala. Dans une déclaration commune faite vendredi 20 octobre, elle remercie vivement le chef de l'État pour avoir répondu favorablement à leur demande. Les signataires font savoir que ce changement est perçu comme un salut pour ce programme, mais aussi une opportunité pour sa véritable mise en œuvre avant de se déclarer disponible à accompagner le PDDRCS pour que règne la paix, la sécurité et le développement à l'est de la RDC. Suivons Stéphanie Kamundala, présidente de la Société civile Force vive du Maniema, au micro de Florence Kiza.
Au vu de la décrispation par le chef de l'État de ce climat malsain qui régnait à la tête du PDDRCS, la Société civile du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Maniema recommande, primo, à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, d'ordonner au Premier ministre et chef du gouvernement de procéder à l'allocation des moyens nécessaires pour la mise en œuvre des activités prévues dans les plans d'action du PDDRCS. Segundo, au nouveau coordonnateur national du PDDRCS, Monsieur l'abbé Jean Bosco Bala Okuibale Lucheke, d'être rassembleur et de rester à l'écoute des acteurs et de tous les bénéficiaires du PDDRCS. De revoir tous les plans stratégiques et plans d'action avec les acteurs clés des provinces concernées par le PDDRCS en vue de les adapter aux vraies réalités des entités. Tertio en fait à tous les partenaires bi- et multilatéraux de la RDC de se mobiliser pour apporter les appuis nécessaires au PDDRCS afin de propulser la paix et le développement des zones concernées par les programmes.
L'Organisation internationale des médecins sans frontières annonce son désengagement dans le projet de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-SIDA dans trois zones de santé, Goma, Karisimbi et la zone de santé de Nyiragongo notamment. Au cours d'une conférence de presse tenue hier à Goma, MSF a lancé un plaidoyer au gouvernement congolais et à ses partenaires afin de mobiliser des fonds pour assurer la continuité de la prise en charge des malades, surtout pour les patients qui sont hospitalisés. Ce désengagement suscite déjà l'inquiétude de la société civile. Cette structure parle d'un coup dur pour les PVV et pour la communauté. Selon elle, il y a donc nécessité de prendre des mesures urgentes pour couvrir le vide. Nous allons passer à une autre nouvelle. La section DDR, démobilisation, désarmement et réinsertion de la MONUSCO, a installé à travers ses partenaires 231 lampadaires dans le territoire de Mahagui, environ 180 km de Bounia. Un projet qui vise à améliorer les conditions sécuritaires, booster l'économie des riverains et réduire les tensions communautaires grâce à l'utilisation des jeunes désœuvrés. À Mahagui centre, environ 100 lampadaires éclairent déjà les artères principales de cette agglomération. Jean-Claude Lokidile s'est rendu dans la zone afin de recueillir les avis des habitants de cette entité.
Il est presque 20h lorsque nous rencontrons James Obegiu, assis sur sa moto. Il attend des clients. La quarantaine est révolue. Il avoue que ce projet a nettement amélioré les conditions sécuritaires dans leur milieu.
Auparavant, nous arrêtions nos activités un peu plus tôt. Il n'y avait pas moyen de travailler avec l'insécurité qui sévit à Littoré. Mais avec cet éclairage, nous travaillons jusqu'à des heures tardives. Et c'est facile aux clients de repérer les taximènes moto au parking.
Magui Centre, Amé Ngoté sont des centres commerciaux où ce projet est exécuté. Plus de 300 personnes, parmi lesquelles des femmes vulnérables et des jeunes à risque, ont été utilisées comme main-d'œuvre. Pour François Kassa, officier de la section DDR de la MONUSCO, l'objectif est atteint.
Parce qu'à Amé, Nyoka et Ngoté, il y a une tendance de développement de l'expansion de la violence qui vient des territoires voisins de Djougou vers les territoires de Maagi. Il fallait à tout prix limiter les risques de voir ces jeunes tomber dans cette violence ou rejoindre les groupes armés du fait que leurs entités étaient souvent attaquées, pillées par les éléments qui venaient des Djougou.
Les habitants du centre de négoce de Maagi souhaitent que d'autres éclairages publics soient installés, notamment dans les quartiers où le banditisme urbain refait surface.
Actualité internationale.
La liberté provisoire Brice Lacruche Alianga après 4 ans de prison. L'ancien directeur du cabinet de l'ex-président du Gabon Ali Bongo, renversé fin août, a bénéficié d'une grâce présidentielle pour raison de santé, notamment alors qu'il purgeait une peine de 5 ans. L'annonce a été faite samedi par son avocat. Brice Lacruche Alianga avait été arrêté et incarcéré en décembre 2019 dans une opération anticorruption baptisée Scorpion, puis condamné dans un premier procès à 5 ans de prison ferme en octobre 2021. Pour fausse déclaration sur l'origine de sa nationalité gabonaise.
L'invité.
Clôture ce jeudi à Bukavu de la formation des officiers de la PNC Sud Kivu sur la sécurisation des élections pour la paix en RDC. La formation a duré 4 jours sous la supervision du groupe technique pour la sécurisation électorale venu de Kinshasa. Le chef de mission et conseiller juridique principal du commissaire général de la PNC est notre invité, commissaire supérieur Johnny Siaidi, est au micro de Jean Kassami.
Commissaire supérieur Johnny Siaidi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Bukavu pour superviser une formation en cascade des officiers de la police pour la sécurisation des élections. Quels sont les principaux modules sur lesquels vous insistez?
Oui, effectivement, nous sommes là pendant plus ou moins 4 journées. Nous avons, à la première journée, procédé à l'ouverture à travers notre directeur général des écoles et formations qui est venu faire l'ouverture. Et à la deuxième journée, nous avons directement entamé avec des modules relatifs à la procédure, c'est-à-dire une méthodologie, andragogie, je dirais. Nous étions devant des adultes avec leurs prérequis, des connaissances qu'ils ont déjà. Il fallait procéder à la mise à niveau avec une méthodologie andragogie où l'adulte lui-même définit ses besoins en tenant compte de ce qui a été prévu. Et un autre module, c'était savoir comment organiser son travail avant d'aller sur terrain. Après avoir fini cette étape, nous avons entamé des modules proprement dits concernant la sécurisation du processus électoral. Parce que vous savez que le policier est appelé à sécuriser le processus avant, pendant et après. Les formateurs qui ont été formés à Kinshasa ont procédé à la restitution ou à la formation des autres formateurs, qui sont à plus ou moins 40, qui vont relayer à travers leurs ressorts respectifs pour savoir comment s'y prendre pendant le processus électoral, quelles sont leurs obligations ou leurs devoirs et leurs limites, qu'est-ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils ne doivent pas faire. On leur a appris aussi des notions sur le maintien et rétablissement de l'ordre public, c'est-à-dire la gestion des foules. Il y a aussi le module sur l'éthique et déontologie du policier. Parce que le policier qui doit être déployé pour la sécurisation électorale doit avoir le sens de l'accueil du public. Il doit avoir un sens de respect des droits humains et surtout savoir quels sont les droits de la population et pendant la période électorale, qu'est-ce que lui doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Et c'est là que nous avons rappelé le code de déontologie du policier qui définit particulièrement les normes de conduite du policier, ses obligations, ses droits et ses relations avec la population, avec sa hiérarchie. Et à la dernière journée, c'est-à-dire le 4e jour, c'est cette notion sur le maintien et rétablissement de l'ordre public et puis avec quelques notions sur les GTPI, les gestes techniques professionnels intérieurs. profession. C'est-à-dire là, on demande aux policiers de savoir se comporter et lorsqu'il doit à l'extrême procéder à des interpellations, il faut que ça soit conforme à la loi. Il y a eu, sur demande de l'auditoire, une présentation sur l'organisation et le fonctionnement de la police en temps normal et en temps spécial, notamment électoral.
L'andragogie suppose une interaction entre formateurs et formés.
Nous sommes en face de policiers bien formés, et ce sont la plupart des hauts cadres, c'est-à-dire des officiers supérieurs, qui ont déjà certaines notions de base. Mais cependant, avec l'évolution, avec des nouvelles instructions de la hiérarchie, il a fallu qu'on essaie un peu de changer sur l'autre manière de voir les choses. C'est-à-dire, là, on a appliqué, je dirais, une sorte de brainstorming. On pose une question, on lance les débats, et à travers les réponses qui ressortent, on récolte les données et on arrive à une conclusion par rapport à la matière. Et tout l'auditoire était enthousiaste. Et on a vu une interaction vraiment entre les formateurs et les formés. Et malheureusement, nous avons un timing bien précis et donc prochainement, il y aura d'autres matières qui seront amenées vers eux sous forme de vulgarisation des textes et de loi.
L'apprentissage en salle, c'est différent de la réalité sur terrain.
L'inquiétude, c'est de voir certains ne pas respecter la procédure devant le centre de vote et le terrain, effectivement, ne peut pas justifier les mauvais comportements du policier. Donc le policier est avisé en tout temps, en tout lieu, pendant les heures de service ou en dehors, il doit respecter les normes requises et aussi les droits humains.
Commissaire supérieur Johnny Siadi, merci.
Merci beaucoup.
Nous vous disons aussi merci, chers auditeurs, d'avoir suivi ce journal.